C'est la deuxième heure déjà de ce Sweet Home Chicago numéro 1163, deuxième heure au cours de laquelle je vous engage à découvrir un duo et plus que ça, tout un groupe qui s'appelle Lionel Blues Gang avec Gypsy Bacuette et Lionel Werner qui m'ont gentiment accordé une interview il y a quelques jours que je peux vous présenter maintenant avec quelques extraits de leur album qui s'appelle This Is Us. Voici Gypsy et Lionel. Lionel Blues Gang, je suis au téléphone avec Gypsy Bacuette et Lionel Werner. Bonjour les deux amoureux, c'est ça,
salut,
il faut dire.
Salut Marc, bonjour à tous.
Alors, à la ville comme à la scène, hein, et puis ça depuis quelques années, excellente nouvelle que ce nouvel album, ce deuxième album de Lionel Blues Gang, qui s'appelle Ça c'est nous, hein, c'est un titre évocateur, This Is Us, c'est comme ça qu'on est quoi. C'est ça l'idée?
Oui, voilà, on n'a pas pris un titre de l'album cette année pour donner le nom à l'album,
voilà,
justement.
Ça nous représente c'était complètement.
Dire, voilà, c'était voilà. Vraiment nous. Cet album, c'est vraiment une part de nous.
Ça, c'est vraiment toi, c'est ce que dirait le groupe Téléphone, par exemple. Mais vous, c'est
voilà, des ciseaux.
Alors, pour les 4 ou 5 auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous propose, Lionel et Gypsy, ou Gypsy et Lionel, comme vous voulez, ben, de vous présenter à nous et puis de nous dire un petit peu d'où vous venez.
Eh bien, on va commencer par Lionel. Je vais commencer par moi. Donc, en fin de compte, moi, je suis Vosgien de base, d'origine. J'ai immigré après à Saint-Dizier jusqu'à, voilà, 18 ans. Et puis après, Reims. Et à Reims, voilà, ça a été la consécration musicale, on va dire, la plus prenante à Reims.
J'ai lu quelque part que tu étais quelque part un enfant du rock, c'est exact ça?
C'est carrément exact, ouais. Ouais. Moi j'ai été bercé par les disques de Deep Purple, de Whitesnake, Rainbow et Tutti Quanti. Ouais. De l'époque que me faisait écouter Fred Chapelier, puisque Fred Chapelier est mon ami d'enfance, hein, et mon frère, quoi, carrément, parce que quand on s'est connus, j'avais 5 ans, donc quand il a commencé à me faire écouter tout ça, j'avais une dizaine d'années, quoi, juste avant de commencer la guitare, finalement.
Voilà, donc, ami d'enfance, et puis également musicien ensemble, je crois, au départ, le premier instrument de Fred, il nous avait dit ça, c'est la batterie, vous avez joué ensemble étant minot?
Exactement, c'est-à-dire que quand j'avais 13 ans, j'ai monté mon petit groupe au collège, où on reprenait du Iron Maiden, on reprenait du Téléphone, on reprenait du Black Sabbath et tout ça.
Yes.
Et j'avais un batteur qui était avec moi pour les morceaux pop, on va dire, et pour tout ce qui était morceaux plus rock. J'avais demandé à Fred, qui avait déjà fait pas mal de batterie avant, de se joindre à moi. Et puis voilà quoi. Donc un petit concert de fin d'année au collège avec Fred Chapelier derrière, c'était excellent quoi.
Voilà. Et donc cette musique qui t'a frappé au cœur dès le plus jeune âge, ce blues rock, ce hard rock mêlé d'électricité, on va dire, ça, ce sont tes racines, ce sont des choses qu'on retrouve dans ta musique encore en 2022.
Exactement, je suis un guitariste de blues qui est quand même resté très rock dans mon approche et dans ma main gauche, on va dire, puisque voilà, j'ai toujours appris des choses assez rock, quoi.
Ouais.
Ça passait par Stevie Vai, ça passait par Satriani, McAlpin, tous les guitaristes comme Malmsteen, tout ça, voilà, tous ces guitaristes de là, je travaillais, Van Halen et tout ça. Et après, je suis venu au blues, puisque forcément, à force de conseils, de pouvoir connaître les racines du rock, je suis arrivé au blues et j'ai mis au service. J'avais envie de mettre au service le blues au rock et le rock au blues.
Voilà, et peut-être aussi avec, à un moment donné, les conseils de notre ami Fred Chapelier, Peter Green, Albert King, enfin tous les musiciens qu'il adore, Roy Buchanan. Voilà, ce sont des belles références que vous partagez. Je te propose, Gypsy, d'en faire autant, mais je pense que là, on va rentrer dans un univers un petit peu différent si on reparle de tes origines et de la façon dont tu t'es mise à la musique, Gypsy.
Exactement, oui, c'est différent, c'est même à l'opposé, mais bon, ça se rejoint quand même. Moi, j'ai commencé, donc je suis troyenne d'origine, et j'ai commencé par le conservatoire classique, donc le piano.
Ouais.
Et puis, j'ai vite dévié aussi au collège et au lycée avec des groupes de rock aussi. Et enfin, je me suis plus approchée du jazz, moi. Voilà, je suis vraiment une fan de toutes les belles voix de jazz, Sarah Vaughan, Billie Holiday, toutes les grandes et les pionnières, on va dire, du genre, jusqu'à voilà, Diana Krall en ce moment, enfin tout ce qu'on entend. Et j'ai quand même découvert que j'adorais le blues et le rock aussi. Et puis Lionel m'a dit, écoute, on va mettre tout ça ensemble et on va faire un mix. Tu vas apporter le côté soul, jazzy, de la voix voilà assez feutrée, mielleuse de temps en temps, et sucrée, voilà, pour mettre ça dans dans les morceaux blues.
Voilà, et très jeune, instrumentiste, pianiste pour être plus précis, hein, c'est ça, Gypsy?
Oui, c'est ça, voilà, le piano classique. Je n'ai pas fait très très longtemps parce que le conservatoire, c'était pas vraiment une école qui me convenait dans le sens où bah faut déjà étudier 2 ans de solfège avant de enfin trouver un instrument. Et puis c'est pas mal rébarbatif. C'est une bonne école, je pense, pour certains quand même, mais c'est assez élitiste. Il faut voilà, faut travailler des anciens morceaux. Il y a rien de très contemporain, on va dire quand même. Hein. On étudie tous les grands classiques, mais bon, c'est une bonne école quand même malgré tout. Je regrette pas.
Et voilà, l'école classique. Il y a des écoles difficiles, hein, si on veut être serveur, faut faire l'école hôtelière, c'est très très dur aussi. Si on veut devenir musicien classique, il faut en passer par le solfège et ce sont des parcours obligés. Tu as parlé d'élitisme quelque part, c'est vrai, on retient la crème de la crème et les grands instrumentistes du classique sont tous des virtuoses, on va dire ça. Hein.
C'est ça, voilà, complètement. Il faut apprendre vraiment les bases, la technique de base fondamentale. Avant de pouvoir, bah après, si on change un petit peu de direction musicale, voilà, appliquer ces mêmes bases. D'ailleurs, ça sert vraiment beaucoup, hein, tout ce qui est classique, ça nous sert encore maintenant.
Sitting by the river, an old woman cries. A hand on her shoulder, he tries to help her tears to rise. She's looking for her children. Playing in the sky. Do they really play in the sky? Walking near her sister, a little young boy cries. Hand in hand through the whispers, kids are just trying to find the answer to that question. Why do they say mommy is sleeping in the sky? Does she really sleep in the sky? Just need a prayer to bring them down. Just for an hour to walk side by side. The flickering candle warm the heart of a poor lonely soul. May the night of each lost angel still be sweet as a rainbow. Her brother, lonely Jenny, still cries. No one to tell her. Spare the rod and spoil the child. She's missing little Big John. Why is he hiding in the sky? Is he really hiding in the sky? Sitting by the river, people used to cry. No more together, just the memory of a smile. Just the sound of a voice, just a breath and clear eyes. Just a breath and clear eyes. Just need a prayer to bring them down. Just for an hour to walk side by side. May the light of the flickering candle reparlant les sons. May the night of each lost angel still be sweet as a rainbow.
Est-ce que ça explique le fait, selon toi, que le jazz et la musique classique soient liés? Parce qu'il y a beaucoup de professeurs de conservatoire, par exemple, qui enseignent la musique classique, qui sont aussi très très branchés de jazz. Le jazz, c'est aussi et surtout la musique de l'improvisation, finalement.
Ouais, c'est de l'improvisation, mais je pense que sans la technique, toutes les notions d'harmonie vraiment fondamentales, ça peut être un peu compliqué, voilà, d'aborder le jazz sans la technique classique.
D'accord. Et ensuite, donc, ton parcours, ça a été quoi? Tu as chanté dans des formations, dans des chorales gospel, avec des groupes de rock,
alors,
du jazz.
J'ai commencé comme pas mal de chanteurs à faire des groupes, des orchestres, voilà, de bal, comme on dit. Ouais. C'est très formateur pour le métier, parce qu'il faut chanter tous les répertoires dans les tonalités d'origine, que ce soit un répertoire féminin ou masculin, voilà, il faut tout savoir faire. Et puis après, j'ai accompagné divers artistes en tant que choriste, et puis ce groupe, surtout avec Lionel, voilà, dans lequel on a commencé en duo, déjà à prendre des covers de blues, de rock, et puis, sous l'impulsion de Fred en 2019, il nous a dit, non mais, faites ça avec un vrai groupe, et vous verrez, ça sera d'autant plus important et mieux sur scène.
Voilà, et donc c'est Fred Chapelier, qui vous a donné l'idée, qui vous a mis un peu sur les rails, en vous disant, mais il faut vous lancer, c'est le moment, c'est ça?
C'est carrément ça,
ouais. Ouais. On peut dire c'est grâce à lui ou c'est à cause de lui, voilà, tout ça.
Comment est-ce qu'il vous en a persuadé? Est-ce que c'était à l'occasion, d'une répétition, d'une soirée entre amis? Comment vous en avez parlé? Comment est-ce que c'est né, cette histoire?
Ben, en fin de compte, c'est venu avec l'invitation de Fred, qui nous avait donc invité lors d'un concert caritatif.
Ouais.
Et il nous avait dit, écoute, venez, moi j'ai mes musiciens, puisque vous reprenez mes morceaux en duo, vous aurez juste à les jouer, mais au lieu de les jouer avec une bande playback, vous les jouerez avec mes musiciens. Et je vous laisse la scène, et puis voilà. Donc ça s'est super bien passé. Fred nous a même rejoint sur scène pour buffer sur des covers et sur des titres à lui. Et puis, à l'issue du concert, en loge, il nous dit, non mais sérieux, vous avez des choses à dire, mais allez-y quoi, sérieux, il faut vous lancer quoi. Il n'y a pas de raison, vous avez le bagage, vous avez tout ce qu'il faut, on a passé une super soirée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tenter le coup avec un groupe, parce que, bon, en duo, voilà, c'est encore une autre dimension, quoi.
Voilà, c'est ça le contexte, c'est la sortie d'un concert, quand on est encore sur son petit nuage, on peut y être encore quelques heures, hein, je pense. Et à ce moment-là, vous étiez peut-être, je ne sais pas, en pleine euphorie, et ça vous paraissait des bonnes idées, c'est ça?
Ah, mais complètement. Avec du recul, on se dit que... Si on avait eu le conseil avant, ça aurait été, on aurait fait exactement la même chose, quoi.
Oui. Mais alors, pourquoi peut-être avoir attendu quelques années avant de franchir le pas? Je ne sais pas. Peut-être que vous jouiez, vous chantiez déjà ensemble depuis un certain temps.
On a travaillé combien de temps? Depuis 2012 en duo.
Oui, voilà.
Donc ça se passait très très bien. Mmh. Et puis bon, on avait entre guillemets l'avantage de compter que sur nous deux. Donc c'était plus pratique, il n'y avait pas de répète à faire, il n'y avait pas de choses comme ça. Et puis comme on faisait pratiquement que des covers, le travail était assez rapide.
Mm-hmm.
Mais quand Fred m'a entendu jouer, il m'a dit, écoute, ça fait longtemps, je t'avais pas entendu, sérieux, monte ton truc, puis essaye de nous faire un album assez rapidement, trouve des musiciens, voilà. Il m'a même conseillé sur une paire de musiciens à appeler. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que c'était sous l'euphorie d'avoir passé une super soirée tous ensemble.
Et ça, est-ce que c'était, ou je me trompe peut-être, le contexte, c'était la soirée pour Johanna?
C'est ça, oui. C'est exactement.
D'accord.
Ça.
Ouais, très bien. Et donc ces musiciens, on peut en parler, est-ce que si je cite Philippe Dandrimon, Pierre-Alain Delaunois et François Barizot, est-ce que c'était déjà ces trois-là dès le départ ou pas exactement?
Alors, Au départ, c'était Philippe Dandrimont et François Barizot.
Oui.
Mais pour le premier album, on avait un batteur qui s'appelait Jonathan Tilio.
Oui, d'accord.
Qui a assuré grave pour le premier album, qui a fait les 3-4 premiers concerts juste avant la pandémie. Et puis, à cause de la pandémie, moi, il m'a appelé un soir en me disant, écoute, ça me fait peur, tout ça, je peux pas continuer, j'ai des factures, j'ai tout ça, j'ai envie de refaire une formation, de travailler dans civil, entre guillemets, autre que la musique.
Ouais.
Et puis voilà, quoi. Donc, moi, j'ai rappelé Fred en disant, écoute, là, je suis dans une galère grave, parce que j'étais en pleine période de composition pour le deuxième album.
Mmh.
Et je lui dis, par contre, j'ai pas de batteur, quoi. Donc, il m'a conseillé Pierre-Alain Delaunois, qui connaissait déjà, puisqu'il était parti avec lui à Memphis en 2012.
Ouais, c'est ça.
Et il m'a dit, écoute, il est super, il a un jeu très rock, ça va aller très bien pour toi, il est très fin, très sympa et en plus très intelligent. Donc et ça a collé tout de suite, quoi. Ça a matché tout de suite.
J'ai vu qu'il avait joué avec André Charlier. Il a fait des choses intéressantes. Il a aussi étudié avec un certain Alain Lecoq, qui a fait partie du divers de Nino Ferrer. C'est quelqu'un qui a des références musicales de son côté, ce batteur. Hein.
Ah oui, complètement. Oui. Il a un très très bon bagage.
Diplômé à Nancy.
Oui, il a fait le CMCN, enfin le MAI à Nancy.
Voilà.
Non, franchement, c'est vraiment un excellent élément. Et ce qui ne gâche rien, en plus, il est super sympa, très souple. Enfin, voilà, quoi.
Moi,
je dis pas qu'il fait le grand écart et tout ça. Hein,
Oui, c'est pas Emmanuel Desnaux, le guitariste des Wish Doctors, voilà, petit clin d'œil. Lui, par contre, il fait le grand écart. Il faut le voir sur scène, absolument.
Il fait le grand écart.
Exactement. So my old buddy, yesterday, we were talking all night long. He's been waiting for better days, wondering how he can carry on. Like a long, boring novel, the sad, sad story of his life. The air was so thick with his self-misery, you could cut it with a knife. You gotta smile to get through the blues. Walk a mile or two in another man's old shoes. Don't try to tell me what I a drink or two, and he's trying to bring me down, down the dark hole of his despair. I said, brother, I just ain't got the time, your blows are not my cross to bear. You'd better pick yourself up and get back home before the morning sun. Oh, you might find nobody's waiting for you there when your last glass of wine is done. You gotta smile to get through the blues. Walk a mile or two in another man. Don't try to tell me what I can and can't be. Don't hate me because I'm happy.
don't hate me. Don't hate me. Don't hate me. Because I'm happy.
Je vous propose à ce stade de l'interview un petit jeu vraiment rapide, si vous voulez bien, Lionel et Gypsy. Je vais vous donner trois noms. Il va falloir à ces trois noms-là réagir très vite en me donnant quelques adjectifs, voilà, à quoi, ou quelques mots. Enfin, à quoi ça vous fait penser et qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes d'accord?
Allons-y.
Carrément, pourquoi pas.
Neil Black.
Le Texan.
Oui.
Coach.
Très bien, coach, oui, parce que Neil Black, il faut le dire, il a été un peu le catalyseur, lui aussi, de votre aventure à un moment donné, je crois, au niveau de la composition.
Hein, c'est ça, ouais, au niveau de la composition du premier album, j'avais écrit tous les textes, et Fred, voilà, en les lisant et en écoutant un petit peu ce que ça donnait déjà sur les premières maquettes, m'a dit, c'est super, mais il y a des petites expressions, je pense que tu pourrais peaufiner, appelle Neil de ma part, ouais. Et voilà, il va t'arranger ça, donc ben, je l'ai appelé tout de suite, et c'est vrai que ça a vite collé, et il m'a dit, oui, il n'y a pas grand-chose à changer, il y a des expressions... Donc, voilà, on a travaillé déjà à distance dans un premier temps, puisqu'il est sur Vienne, il est un petit peu loin de chez nous. Et puis, en fait, on lui a dit, écoute, en studio, ça serait bien quand même que tu sois là. Donc, il est carrément venu une semaine à la maison. Donc, écoute, en studio, on a travaillé un petit peu l'accent, voilà, le placement rythmique qui est un peu différent avec les accents toniques de ce qu'on peut faire quand on est un petit peu autodidacte comme ça. Mmh. Et c'était super. Aussi bien en studio la journée que le soir à la maison où il nous a raconté toutes ses anecdotes, les périodes. Où il était en première partie de Stevie Ray Vaughan aux États-Unis, des tas de choses comme ça.
Mais oui.
C'est vraiment une encyclopédie, c'est vraiment super de l'avoir.
Ouais, parce qu'ils étaient super potes en plus avec Stevie Ray Vaughan.
Ah. Oui, et puis il est aussi pote, tu l'as dit, avec Fred Chapelier, qui est ton ami d'enfance, rappelons-le, Lionel. Enfin voilà, il y a des connexions qui se font comme ça, qui se créent comme par magie. Ce sont également Fred et Neil, des gens qui enregistrent pour Dixie Frog.
Oui,
exactement. Alors,
c'est Fred qui nous a présenté à Neil. Ouais. Ouais. La petite question entre parenthèses, en filigrane, pourquoi pas Lionel Bousgang chez Dixie Frog?
Pour l'instant, ça se présente pas.
Ouais. En fin de compte, ça se présente pas. Alors, soit c'est pas la période, ou soit, pour l'instant, en autodidacte, ça se passe très bien.
D'accord, voilà.
En autoproduction.
J'ai un deuxième nom à vous proposer. Là encore, il faut réagir très vite. Peut-être, allez, juste un ou deux mots, puis ensuite, on va parler du personnage. Vous êtes prêts?
Oui.
Allez, j'appuie sur le bouton. Litfoot Rivet.
Voilà.
Poète.
Ah bah, une encyclopédie.
Lui aussi.
Ouais, c'est vrai, il y a tellement d'anecdotes aussi à raconter de sa période où justement il était booker pour divers artistes.
Il a fondé
Dixie Frog aussi.
Il a fondé Dixie Frog, il a fait tourner Peter Green, il a fait tourner...
Tommy Castro.
Bah oui, il a fait les plus grands, quoi. Il a côtoyé les plus grands il a une culture américaine hors limite, quoi. Mmh. Franchement.
Et puis poète, parce qu'il écrit aussi magnifiquement bien.
Ah, il écrit super bien.
Que ce soit pour ses textes en français ou alors en américain. C'est vrai que lui aussi, d'ailleurs, m'a filé un petit coup de main sur ce deuxième album.
Mais oui.
Voilà, j'avais envie aussi de travailler avec lui. Donc on a collaboré. Et puis c'est une crème, et humainement, c'est un amour, quoi.
Mmh. Et le troisième nom, je pense que vous n'avez pas de surprise, c'est Fred Chapelier. Simplement.
Ah. Bah ouais, mais là c'était inévitable.
Ouais.
C'était inévitable. Hein. C'est pour ça qu'il est coproducteur des deux albums. Hein, parce que de toute façon, ça fait 45 ans qu'il me conseille. Ça fait 45 ans qu'il m'a donné la fibre musicale. Que de toute façon, voilà, le frérot, ça, c'est indéniable.
Moi, pour le résumer en un mot, je dirais même trois mots, la grande classe.
Ah ouais, la grande classe.
Ah ouais.
Ah, c'est carrément le boss, quoi, c'est carrément ça.
Let's go.
On a déjà évoqué ça en filigrane durant tout le début de cette interview, mais on va maintenant axer davantage vers ce tout nouvel album qui s'appelle This Is Us, ça c'est nous. C'est comme ça que je le traduirais, moi, pour le dire, c'est vraiment nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous ressemble. Et j'avais envie de vous dire d'abord que, vis-à-vis du premier album qui était déjà très réussi, il y a eu encore une vitesse supplémentaire qualitativement encore supérieure, et puis des univers différents, mais en même temps, on retrouve un petit peu les influences du groupe, notamment toi, Lionel, au niveau de la guitare. Moi, j'ai pensé à Deep Purple au niveau du clavier. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard non plus.
Ah, mais non, c'est pas du tout un hasard. Hein. C'est bien sûr. Ah ouais, non, mais c'est grave voulu. C'est une sonorité qui a mûri depuis que je suis gamin. Et cette sonorité-là, j'ai toujours voulu l'exploiter. Et heureusement, dans le premier, mais surtout encore plus dans le deuxième album, c'est présent, quoi. C'est vraiment une sonorité particulière.
Comment est-ce qu'il est né, ce disque? Qui a eu les idées au niveau des compositions? Comment est-ce que vous l'avez bâti? Comment s'est faite l'architecture de tous ces morceaux?
On n'a pas vraiment de schéma, en fait, de composition pour les morceaux. C'est juste qu'il est né pendant le confinement, en fait, comme on avait beaucoup de temps, comme beaucoup d'artistes qui ont sorti un disque récemment. Voilà, il est issu de ce confinement et de la grande période d'introspection, de réflexion surtout sur la vie, les êtres humains. Donc c'est pour ça que voilà, il s'appelle vraiment Ça c'est nous. Et après pour la composition,
on a gardé dire la même vitesse de croisière que le premier album, c'est-à-dire que moi je compose toute la musique et Gypsy tous les textes, mais tantôt c'est moi qui lui propose une compo instrumentale et fait le texte, ou tantôt c'est elle qui me propose un texte avec un thème bien particulier. Et voilà, je m'y colle aussi.
Ouais. Voilà, et l'univers musical colle après.
Voilà, mais sinon, c'est vrai qu'on a toujours, on a toujours chacun notre rôle, et apparemment, ça fonctionne bien comme ça.
Quel est le sentiment qui surnage sur l'ensemble de ces morceaux-là? Moi, j'ai senti de l'espoir, j'ai senti un petit peu de fatalisme aussi parfois.
Oui, beaucoup. Beaucoup de fatalisme, de l'espoir malgré tout, de l'amorosité, de la colère aussi.
Ouais, la colère aussi, ouais. Même si elle est un peu déguisée, comme le titre laisse présager, mais on a vraiment voulu montrer, enfin, faire ressentir à travers cet album toutes les émotions par lesquelles on était passé.
Ouais. Est-ce qu'il y a un point commun entre les trois morceaux que sont Of Course, When You Were a Child et Just in a Prayer?
Ben, je crois que ces trois-là, peut-être que le texte est venu avant la musique.
Ouais. C'est carrément ça.
Il semble. Et of course, oui, il est très fataliste dans l'idée que plutôt que de regarder les choses passer, il faudra peut-être agir un petit peu, tu vois.
Ouais.
When You Were a Child, celui-ci, c'est un titre que j'ai composé pour ma fille. Et puis Just Need a Prayer, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu comme une prière, un gospel, tu vois, très très lent. Et celui-ci, je l'ai apporté le texte à Jade McRae, donc qui est la choriste de Joey Bonamassa, mais qui a aussi sa carrière solo. Voilà, on est devenus amis, très proches, et elle m'a dit mais c'est super comment tu écris, enfin c'est voilà, il y a pas grand chose à corriger vraiment, donc elle m'a aidé pareil pour quelques petites expressions et puis la façon de placer on va dire le texte, mais c'est peut-être ceux qui sont le plus mélancoliques mais bourrés d'espoir quand même.
Ouais, c'est un peu aussi ce qu'on ressent quand on écoute, là encore je m'adresse à toi Gypsy parce que c'est toi qui écris, comme What May advienne que pourra, c'est ça, on peut traduire ça comme ça ou...
Ça, ouais, advienne que pourra, ouais, c'est, il y a un petit peu de folie dedans, de maladies psychosomatiques. Il est un petit peu barré celui-là dans le texte, c'est vrai. Mais c'est toujours, oui, voilà, advienne que pourra, on verra bien. Et puis, voilà, les choses, faut les prendre comme elles arrivent, essayer de les modifier.
C'est pour ça qu'on lui a donné un ton un peu funky pour l'alléger un peu.
Oui, d'accord. Ouais.
Pour se moquer un peu de l'expression, en fait.
Ouais. Deep inside of my mind, they're the fairy tale, fairy tale. Not afraid to fall, but she's bound for hell, bound for hell. Sue, so scared to be dropped. No, she won't. She has no idea what will be her fate, what will be her fate. Drawing
watch me. Yes, come watch me.
Côté funky, les balades un peu plus retenues, le côté très très blues rock, un peu énervé, et puis aussi des choses jazzy. On retrouve des touches de jazz dans cet album. Pas bizarrement, parce que c'est vrai que ça fait partie de ton univers de départ, Gypsy, mais voilà, on est agréablement surpris. Il y a des espèces de petites palettes de couleurs un peu plus fraîches, comme ça, qui arrivent. Il y a un petit peu de rose dans le bleu. Enfin, j'adore, moi, personnellement, je trouve que ça se marie super bien, quoi. C'est, voilà, du jazz dans, je sais pas, c'est un petit peu comme si Deep Purple invitait de temps en temps Miles Davis. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, non ?
Oui,
c'est carrément l'idée. Je pense qu'on a enfin trouvé notre couleur, quoi. En fin de compte, je pense que c'est ça. C'est de pouvoir passer d'un style à un autre dans le même morceau.
Oui,
et sur le même album. Qui permet de voyager un petit peu et puis de toucher un maximum de monde. Enfin, si on peut toucher un maximum de monde.
C'est peut-être pour ça qu'à ce titre-là, le deuxième album de Lionel Blues Gang serait plus adapté, à mon sens, vous allez me confirmer ou pas, pour un public américain, par exemple, pour faire écouter aux gens là-bas.
Oui. Ben écoute, ça commence déjà parce qu'on reçoit voilà des courriers, des messages de radio canadienne, du Vermont, voilà, on a des commandes d'albums, commence, c'est super. Ça va même aussi en Allemagne, là, on est en pourparlers avec un tourneur en Allemagne pour quelques dates l'année prochaine, et puis voilà, c'est parti.
Alors, c'est le tourneur qui fait tourner Jeanne Macrae quand elle vient en Allemagne et en Europe.
D'accord, donc je pense que oui, du côté de l'Allemagne, c'est vrai, vous qui êtes à l'est de Paris, on va se situer entre Paris et Strasbourg, hein, pour simplifier, vous êtes plus près de l'Allemagne que nous ici en Normandie. Je pense à un autre groupe qui lui aussi possède un guitariste et une chanteuse, le groupe Rosdell, que vous connaissez forcément bien. Eux jouent régulièrement en Allemagne, c'est une piste aussi à suivre pour Lionel Blues Gang.
Oui, pourquoi pas. C'est pas le même tourneur, mais oui, c'est vrai que l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, ils sont très friands et très férus et amateurs de blues rock.
Ouais, carrément.
Ouais, voilà, très très clairement ce style, hein, le Benelux, l'Allemagne, la Scandinavie même, sont des terreaux très très fertiles pour les styles que vous véhiculez. Je pense que là encore, si vous trouvez un tourneur qui est capable de vous emmener dans ces contrées-là, ça devrait aller très très loin cette histoire.
Oui. On espère.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, en dehors du fait de, bien sûr, vous faire connaître par davantage de monde encore grâce à cet album? J'ai envie de commencer la réponse pour vous. Est-ce que vous pensez que, avec cette veine créatrice qui caractérise l'album des Scissors, est-ce que ça pourrait vous ouvrir quelque part sur le chemin d'une musique de film?
Une musique de film, hein.
Ouais.
Pourquoi pas?
C'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit?
Bah, moi, ça m'a déjà traversé l'esprit parce que je suis super attentif à... Moi, je suis un fan de Ennio Morricone, tu vois, un fan
Ouais.
Bah ouais, donc c'est vrai que quand je regarde un film, bien souvent, c'est pas bien souvent, à chaque fois, je suis captivé par la musique. Donc, je suis très sensible à ça.
C'est vrai que t'arrives quand même bien à retranscrire des univers. Rien que moi, quand je t'explique un thème de chanson, tout de suite, tu arrives à donner la couleur avec un instrument.
Et ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai cette petite sensibilité-là, peut-être à cause de ça, ou grâce à ça, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai déjà pensé. J'ai déjà pensé. Mais bon, voilà.
Chaque chose en son temps.
C'est encore autre chose.
Alors, le troisième album est déjà en préparation, alors on va pas nous rajouter de l'ouvrage.
Mais ça fera partie de la dernière question. Alors, mais juste, je voulais faire écho par rapport à cette question-là, à l'interview que m'avait donnée Tommy Castro en juillet dernier, l'interview qui est passée tout récemment dans Sweet Home Chicago. Je vais demander si son album Bluesman Cape to Town, qui est un concept album, pourrait servir lui-même de musique de film. Après réflexion, il a dit oui, à condition que peut-être que ce soit Martin Scorsese qui le réalise. Est-ce que de votre côté, vous auriez comme ça, je sais pas, c'est Noël, des idées à dire, tiens, moi j'aimerais bien travailler pour tel ou tel réalisateur ou avec un film dans lequel il y a tel ou tel acteur ou actrice.
Ah, alors là, c'est.
On est dans le rêve, hein, attention. Hein,
c'est... Ah, mais... moi j'adore Tarantino.
Oui, c'est vrai.
J'adore l'univers de Tarantino.
Ça s'entend un peu dans l'album parfois d'ailleurs, déjà.
Ah ouais ?
Dans celui-ci en tout cas.
D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment très décalé. Il peut être subjectif à certains moments et.
Bah, le morceau Kiss Me Again, juste celui-là, peut-être Kiss Me Again, il pourrait. Un truc de cette veine-là, non?
C'est marrant parce que je pensais à ça justement.
À ce titre-là en particulier?
Ah ouais, carrément, ouais, complètement.
Bon. Alors Quentin Tarantino, voilà, donc qui va embaucher très très prochainement Lionel Bluesgang pour son prochain film. Direction Cannes après, hein, voilà, c'est clair, hein, on est d'accord.
Ça marche.
Ouais, non, mais je trouve que voilà, il y a pas énormément de groupes de blues pour simplifier, hein, qui pourraient faire ce genre de choses, mais là, je pense que votre univers musical est suffisamment riche et ouvert pour vous permettre ce genre de rêve. Enfin, c'est personnel.
Là, tu nous fais un super compliment là.
Bon, bah écoute, après, l'étape d'après, c'est le 06 de Quentin, mais je suis pas sûr de l'avoir sur moi. C'est pas un problème. On va trouver ça. Tight. Turn off the light. qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter en dehors de tout ça, en dehors du fait effectivement d'élargir votre public? Qu'est-ce que vous souhaitez faire et quels sont vos projets pour le troisième album qui, si j'ai bien compris, est déjà un petit peu en chantier?
Le plus de dates possible, bien sûr, parce qu'on a été tellement brimés avec cette pandémie que voilà, on n'a pas eu le temps de vraiment défendre le premier album.
Voilà.
Donc là, on défend les deux en même temps, mais voilà, il nous faut beaucoup de dates, quoi.
Ouais, ouais, un maximum de dates, de trouver un ou deux tourneurs supplémentaires qui puissent croire en nous et puis nous aider, nous filer un petit coup de main. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui nous tiendrait, parce que on tient quand même le choc, c'est-à-dire dans le sens. Le choc, c'est un grand mot, mais je veux dire, ce qui nous tient, c'est vraiment de jouer et de composer, hein, de toujours rester dans cet univers-là. Mais c'est vrai qu'un petit coup de pouce, un tourneur ou deux qui pourrait nous lancer un peu, ben, voilà, là, ce serait le bonheur, quoi. Je pense que c'est ça. Hein.
Ouais, ouais. Ouais.
Donc voilà, le rêve de Lionel Bousgang, c'est d'avoir des gens qui s'occupent d'eux et de leur avenir, et peut-être qu'ils les aiguillent vers des nouvelles adresses, en tout cas des nouveaux endroits à jouer, un nouveau public à conquérir. Moi, je vous souhaite ça du côté de l'Est et du Nord de l'Europe. En tout cas, les portes sont ouvertes.
On va essayer de les pousser, alors.
Exactement. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous aurais pas posée et à laquelle vous aimeriez répondre, outre le fait que on peut trouver votre album un petit peu partout, hein, je crois?
Déjà à chaque concert, et puis aussi sur notre site internet, et puis on commence à être référencé au niveau des Cultura, des centres Cultura au niveau national. Donc voilà, à chaque fois qu'on se déplace, on en laisse un petit peu à droite à gauche.
Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc, une question que j'aurais omis de vous poser?
Écoute, je pense pas. Si, quand est-ce que tu viens taper le bœuf avec nous?
Ah, ouais, alors ça, oui. Ah bah dis donc, oui. J'aurais jamais osé demander ça. Mais bon, oui, alors maintenant que tu le dis, demain, je suis là, je frappe à la porte.
Ok, d'accord. Écoute, demain, ça tombe bien, puisque donc on est vendredi 8 octobre. Donc demain, on est à Grande-Synthe, au Zapping. Demain, on est bien le 9 à Grande-Synthe, au Zapping. Donc voilà.
On va aller voir.
C'est pas trop loin pour toi, on t'attend.
On va aller se faire payer une pizza par Frank Horst, et puis on va faire ça, il n'y a pas de problème. Si je peux faire un bœuf avec vous pendant la balance, ça me va très bien. Super.
Ah pendant la balance, même pendant le concert.
Et là encore, ça tient du rêve pour moi, parce que voilà, ça serait vraiment top. En tout cas, on fera ça un de ces jours, promis.
Avec plaisir.
Ça nous fera plaisir, gravement plaisir.
Plaisir partagé. Merci à vous deux, merci pour votre passion, et puis votre talent, et puis l'amour que vous portez l'un à l'autre va bien à votre musique.
Merci beaucoup, Marc.
Merci, Marc.
À bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
My eyes, then you'll see a shadow, the shadow of a smile, and still the sorrow. Even though sometimes you can't see me cry, look up to the skies where all the clouds are dry. The man in the corner on my mind, the man in the picture is always by my side. I will give everything to hold his hand again. I pray, but I'm a sinner. Somewhere, somehow, tell me when. Welcome to the dance of the everlasting tears. Just a little glance and you can take my fears away. So many more times my name calls in his voice, but all alone inside I wish I could have. I will give everything to hold his hand again.
Voilà, c'était Lionel Blues Gang, Gypsy Bacuette et Lionel Werner en interview pour découvrir cet album This Is Us. Merci encore à vous deux, vous avez été adorables. C'était vraiment un grand, grand plaisir de faire cette interview tous ensemble. Et puis, juste pour vous signaler qu'on a pu écouter les extraits suivants, Just Need a Prayer, Don't Hate Me Because I'm Happy, également un titre de l'album de Fred Shapley et Mother Hearth, l'album Straight to the Point, et puis de Lionel Blues Gang encore, Come That Way, Kiss Me Again et The Man on the Corner. On va écouter un dernier extrait de ce disque This Is Us, non sans vous rappeler, ceux qui étaient sur le Facebook Sweet Home Chicago le savent, les autres, eh bien, je vous l'annonce tout de suite, vous pouvez faire le 02 31 94 66 66 parce que Lionel et Gypsy ont décidé de vous offrir un album au premier d'entre vous, allez, qui va téléphoner 02 31 94 66 66. Et si vous n'êtes pas le premier, vous pourrez tenter votre chance dans quelques jours sur le site internet de l'émission blues.radio666.com parce que Lionel Blues Gang vous offre en tout 5 albums. Voilà, donc vous gardez toutes vos chances. Voici Of Course, Lionel Blues Gang. J'attends votre appel 0231 94 66 66.
Of course, you can say it will be better tomorrow. You can hide your pain and sorrow. Of course, you may need to take a breath. Of course, there's bitter pills to swallow. Of course, you could win the race against your shadow. So you'd better go fighting and smiling to life instead of crying when you roll the dice. If you want me to listen, you'd better be wise. Cause my heart, yes, my heart is too often, way too often, as cold as ice. Of course, you can run fearlessly in the shower. You'd better go fighting and smiling to life instead of crying when you roll the dice. If you want me to listen, you'd better be wise. Cause my heart, yes, my heart is too often, way too often. Too often, way too often.
Voilà, super, jusqu'au bout. C'était donc Lionel Mousgang avec Of Course. Je vous engage à acquérir cet album ou essayer de le gagner. Bah là, ça y est, il va être gagné au téléphone, évidemment. Merci aux amis qui ont appelé. Et puis bravo à Jean-Claude Chevalier qui était le premier. Et puis d'autres exemplaires. Quatre autres CD seront gagnés prochainement sur le site de l'émission blues.radio666.com. Il va être grand temps de dire au revoir, non sans vous présenter le tout dernier morceau de cette émission. On est en 1972. Et voici Buddy Guy, Gina Wells, Man of Many Worlds, extrait de Play the Blues. À samedi prochain, salut, bye bye.
Nobody say I'm a man of a many words. I can speak things to you, darling, my dear. I can swear that you never heard. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Now come on. All right. When I rap my game and call your name, you would never be the same. And the midnight hours when you dream, my darling, I swear you will call my name. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Come on. I was hauled off the jail late last night with no one to go my bail. I rap strong to the judge early this morning and the judge put the cops in jail. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Now come on. Let me tell you about me, baby. I got to tell you. I'm gonna preach about it.